BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission BFM Crypto, le club. Aujourd'hui, on va beaucoup parler, vous allez voir, de réglementation, mais de développement aussi. Hein. Il y a des choses positives, de stablecoin, d'évolution du secteur. On partira en Afrique également. Mes invités du jour, Jonathan Herskovici est à distance, fondateur de Stack Insight en direct. Bonjour Jonathan, on vous retrouve dans un instant. Ravie de vous avoir dans l'émission. Elodie, lui, est avec nous aussi, fondatrice de Effet 21. Conseil et du podcast Effet 21. Bonjour Elodie.
Bonjour Sandra.
Et Arnaud Toiti, fondateur et associé chez Hashtag Avocat. Bonjour Arnaud.
Bonjour à tous.
Ravi de vous avoir tous les trois sur le plateau de BFM Crypto, le club. Vous nous écrivez également crypto au singulier @bfmbusiness.fr. Vous nous posez toutes les questions que vous voulez. Alors en ce moment, c'est vrai que vous avez beaucoup de questions fiscales. Je ne comprends pas pourquoi c'est tellement simple hein, de remplir tout ça. Mais vous avez le droit de nous poser toutes les questions que vous voulez sur le secteur crypto @bfmbusiness.fr. Le club, c'est parti. Jonathan, je commence par vous. Vous êtes à distance. On va parler de stablecoin aujourd'hui. Parce qu'on parle beaucoup de Bitcoin depuis des années, mais depuis quelques mois, ce sont surtout les stablecoins qui semblent inquiéter les banques. On en a parlé plusieurs fois déjà ici, les banques centrales et même les gouvernements. Pourquoi ce sujet monte-t-il autant en puissance, Jonathan ?
Alors merci Sandra, bonjour à tous. Alors effectivement vous connaissez, hein, moi je suis plutôt un maximaliste Bitcoin, mais ça ne m'empêche pas quand même de m'intéresser à l'évolution du secteur. Et effectivement on voit depuis plusieurs mois une montée en puissance des stablecoins, hein, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui la monnaie et les paiements, ça circulait principalement par les banques, les cartes bancaires, le réseau SWIFT. Mais aujourd'hui, on voit que de plus en plus de pays, de plus en plus de gens, tout simplement, commencent à utiliser le stablecoin pour faire circuler du dollar partout dans le monde, instantanément, 24 heures sur 24, quasiment sans frais. Donc oui, Sandra, je vous confirme que ça commence à inquiéter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs.
Sans frais, 24 heures sur 24, effectivement, ça marche sur les plates-bandes des banques. D'ailleurs, c'est à se demander si on va continuer à parler de crypto, d'ailleurs, Jonathan.
C'est clair. Alors moi, personnellement, je n'ai jamais forcément aimé ce terme, même si c'est effectivement le nom de votre émission, Sandra. Moi, je suis plutôt BFM Bitcoin. Peut-être que vous repenserez à rebrander l'émission, je ne sais pas.
Bien tenté.
mais oui, en gros, on est évidemment sur un sujet qui dépasse le sujet crypto. On est en train de repenser même la façon dont les gens utilisent l'argent, le paiement. Et effectivement, justement, tous ceux qui sont passionnés aussi de... Enfin, on ne parle pas justement de gens qui sont passionnés de blockchain ou de crypto, mais en fait, on parle de gens tout simplement qui veulent protéger leur épargne, recevoir des paiements. Enfin voilà, on est vraiment sur une autre dimension et ça change d'échelle, clairement.
Ouais, c'est pour ça que les banques commencent sérieusement à se faire entendre, hein, c'est que les stablecoins concurrencent certaines fonctions qui, à la base, étaient dédiées aux banques.
C'est ça, effectivement, nous on a toujours connu ça, et puis alors je peux plus fixer la date de création des banques, mais en tout cas depuis des centaines d'années on a ce système bancaire qui existe, et là on est vraiment sur une révolution, parce que les banques évidemment étaient là pour conserver l'argent, faire circuler les paiements, faire des transferts internationaux, et on voit que justement aujourd'hui les stablecoins sont en train de remplacer finalement ces fonctions bancaires classiques. Et finalement, on aura de plus en plus d'acteurs économiques, hein, que soient les particuliers ou les entreprises, qui pourraient utiliser les stablecoins plutôt que des comptes bancaires classiques. Donc effectivement, ça remet vraiment en cause tout le système bancaire traditionnel qui pourrait être remis en question. Et ces usages, encore une fois, évoluent. Parce qu'effectivement, on est aujourd'hui connecté à son téléphone mobile. J'imagine que c'est votre cas aussi, Sandra. Et en fait, les gens quand même sont plutôt utilisateurs de leur téléphone avec un wallet potentiellement en stablecoin, ce qui va faciliter évidemment les paiements en stablecoin, les paiements dollars, hein, parce qu'on parle principalement des stablecoins dollars, ce qui va petit à petit quelque part tuer les banques.
Carrément tuer les banques. C'est pour ça que ça fait réagir non seulement les banques, on appelle les banques commerciales, hein, mais aussi les banques centrales et l'Europe de façon générale, Jonathan.
Et donc ça, c'est clair que, j'imagine que vous en avez longuement parlé sur votre plateau, mais on voit et on constate qu'il y a un retard énorme des Européens sur le sujet des stablecoins. Effectivement, Christine Lagarde a impulsé ce fameux euro numérique que tout le monde décrit et que personne ne souhaite vraiment, au profit justement d'une montée en puissance des stablecoins en euros. On a d'ailleurs un consortium de banques qui est en train de monter en puissance là depuis quelques mois, c'est le consortium Kivalis, hein, donc il y a quand même 37 banques qui se sont réunies autour de ce projet, tout simplement parce qu'elles commencent à considérer que les stablecoins sont vraiment justement la révolution que tout le monde attendait et que les Américains sont largement en avance là-dessus et ça va refondre tout le système monétaire mondial. Et donc c'est pour ça que les Européens commencent à enfin s'y intéresser.
On dit souvent sur ce plateau en effet que les stablecoins qui sont adossés à une monnaie fiat le sont à 99% au dollar. C'est ça qui explique en fait que ça renforce cette monnaie-là, Jonathan. Vous pouvez peut-être nous le réexpliquer en deux mots.
En deux secondes. Donc effectivement, le stablecoin, mais bon, ça encore une fois, ça fait plusieurs mois que vous en parlez sur votre plateau, mais effectivement, ça repose sur une monnaie traditionnelle. Donc en l'occurrence, le dollar étant déjà la monnaie de réserve mondiale, quelque part le fait d'avoir profité de ce statut, ils ont créé donc les premiers stablecoins dollars, donc ils ont renforcé finalement leur hégémonie. Mais attention, hein, parce que finalement le stablecoin dollar, il reste gelé, il peut être censuré, il dépend d'une entreprise privée qui dépend d'un cadre réglementaire américain. Avec tout un tas d'ailleurs d'innovations réglementaires qui ont été apportées là ces derniers mois, mais effectivement, ça va renforcer le système dollar tout simplement parce que ça va renforcer la demande de dollars et donc quelque part profiter aussi au financement de la dette américaine. C'est pour ça qu'évidemment Donald Trump et son gouvernement est très très favorable au développement des stablecoins dollars.
On va voir dans un instant avec Arnaud effectivement ce que nous on essaye de faire dans le même registre en Europe, parce qu'évidemment on a MiCA, mais tout ça avance tout le temps en fait. Notre réglementation elle est en permanence en discussion, et les États-Unis, vous l'avez dit, avancent eux aussi beaucoup plus vite que nous. Ils ont de l'avance sur le Clarity Act.
C'est-à-dire que, on va pas énumérer toutes les mesures qui ont été prises par Trump depuis l'accession au pouvoir, mais effectivement, on sent qu'il a velléité de développer le secteur crypto dans son ensemble, de développer les stablecoins dollars avec le Clarity Act, mais il y a eu d'autres mesures en faveur du secteur. Et donc, effectivement, l'idée très précise de Trump, c'est encore une fois de renforcer l'hégémonie du dollar au détriment des autres monnaies, parce que on rentre vraiment dans une guerre monétaire mondiale et ça devient évidemment très intéressant avec la montée évidemment de la Chine, des BRICS, et Trump a bien compris que les stablecoins étaient quelque part un bon moyen de renforcer l'hégémonie du dollar.
On parle beaucoup de stablecoin en ce moment. J'ai posé cette question il y a quelques mois sur ce plateau. On avait encore un peu de mal à y répondre. Mais est-ce que les stablecoins sont en train de finalement damer le pion au Bitcoin, à votre Bitcoin chéri, Jonathan Erskovici?
Alors attention Sandra à ce que vous dites quand même, parce que je risque de me vexer. Évidemment que ça ne remet pas du tout en cause Bitcoin, parce que tout simplement, ils n'ont pas la même utilité. Encore une fois, le stablecoin va permettre de fluidifier le dollar, de le rendre plus numérique, faire des paiements, enfin bref, tout ce qu'on a dit en début de chronique. Bitcoin, lui, justement, c'est strictement l'inverse. C'est quelque chose qui est décentralisé, il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Enfin bref, vous connaissez quand même le discours autour du Bitcoin et toutes les propriétés du Bitcoin. Donc en fait, le stablecoin quelque part va moderniser le système monétaire mondial, alors que Bitcoin justement propose quelque chose de radicalement opposé, avec une indépendance et une décentralisation qui rend Bitcoin extrêmement pertinent dans le contexte actuel.
Et pour finir, pourquoi justement c'est important dans ce contexte géopolitique international, Jonathan?
Encore une fois, les monnaies traditionnelles, elles dépendent principalement des États, et le but c'est justement avec Bitcoin d'avoir une forme d'indépendance. Et effectivement, depuis quelques années, notamment depuis le Covid, on voit que la géopolitique a changé. On est beaucoup plus sur des problématiques d'inflation, de dette, publics, de sanctions économiques, des contrôles des capitaux, etc. Donc ces sujets-là qui évidemment ont toujours été très importants, bah en fait montent en puissance depuis le Covid, et j'ai l'impression que justement même les populations commencent à se les approprier. Je pense même que ça peut être aussi un débat pour la présidentielle 2027 en France.
On l'espère.
En tout cas, nous, on pousse en ce sens. Donc, on sent qu'il y a un changement de paradigme et que cette guerre monétaire, finalement, devient de plus en plus mainstream. Et justement, Bitcoin peut sortir vainqueur de cette guerre monétaire. En tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite.
Mais tâtons le terrain un petit peu. Il y a des gens sur ce plateau qui sont sur le terrain. Elodie Luet, vous travaillez particulièrement, vous, avec les entreprises. Justement, cette vulgarisation du sujet, les paiements pour les entreprises, comment on se saisit de ces nouvelles technologies. Est-ce que vous sentez effectivement ce changement de paradigme dont parle Jonathan ?
En tout cas, aujourd'hui, les entreprises, ce qu'elles comprennent, c'est que les marges, avoir des frais moins élevés, ce sont des sujets importants dans un contexte d'inflation, dans un contexte où tout coûte cher, où même leur survie, des fois, en dépend. Donc, elles le comprennent par ce prisme-là. Donc, elles sont très pragmatiques. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Ça fait qu'une entreprise, quand on lui présente... En fait, quand on lui parle de blockchain ou même d'éthos de Bitcoin, etc., c'est pas quelque chose qu'elles vont forcément comprendre.
Non.
Mais lorsqu'on leur dit, bah, vous avez un moyen qui va vous permettre de gagner du temps et de l'argent pour correspondre avec vos partenaires qui sont dans d'autres zones monétaires, ça, c'est quelque chose qui se comprend très facilement par un DAF ou un CIO.
En fonction des cours, effectivement, il y a cet argument du là, vous allez gagner de l'argent sur les frais que vous n'allez pas dépenser. Et puis, effectivement, après, il y a cette possibilité que le Bitcoin prenne de la valeur. On n'est pas pour le moment dans ces périodes-là.
C'est plutôt les stablecoins, en tout cas, qui trouvent un écho sur ce sujet.
Avec les paiements transfrontaliers.
Exactement.
Oui, oui, effectivement. Mais c'est un bon argument, en effet. Et on se demandait où allait notre réglementation, Arnaud. Arnaud
Toiti.
Oui, effectivement, vaste sujet. Ce que vous avez fait, vous avez lu les consultations de l'Autorité européenne des marchés financiers sur MiCA 2, et on ne dit pas MiCA 2, hein, vous me l'avez bien dit en début d'émission, mais alors on dit quoi ? Et concrètement, ça recouvre quoi ? C'est l'avenir de notre réglementation européenne sur les crypto-actifs ?
C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on a parlé avec Jonathan des États-Unis, on a parlé du Clarity Act, on a parlé effectivement de cette initiative en Afrique. L'Europe, en tout cas pour l'instant, on la connaît plus pour sa capacité à réguler nécessairement que pour sa capacité à développer beaucoup de champions européens. On en connaît quelques-uns, mais ça reste quand même très très limité. Pour reprendre ce que disait Jonathan, je pense que l'Europe est un peu pris en étau entre, d'un côté, la volonté d'avoir ce fameux euro numérique, parce que nous n'avons pas une monnaie aussi forte que la monnaie américaine, parce qu'on a aussi une certaine forme d'aversion vis-à-vis des acteurs privés et qu'on considère que la monnaie fait partie des éléments qui sont étatiques et qui doivent rester en réalité contrôle de l'État. Avec, de l'autre côté, et c'est peut-être là un petit point de différence avec Jonathan, je ne pense pas que les banques vont être tuées, je pense qu'au contraire, elles vont être en réalité les premières bénéficiaires de ce système-là, simplement parce que la régulation, elle est faite à la base par et pour les services bancaires. Il n'y a pas de jugement dans mon propos, c'est relativement factuel. Et que les évolutions réglementaires qui sont envisagées dans le cadre, effectivement, d'abord de l'évolution de MiCA 1 et de MiCA 2 seront probablement des évolutions qui vont dans ce sens-là. Donc il y a plusieurs sujets qui ont été évoqués, qui pour l'instant sont évoqués. Donc c'est une consultation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision qui sont prises. Mais disons que via cette consultation, on sent un peu quels sont les sujets sous-jacents qui vont évoluer. Il y en a un, évidemment, ça surprendra personne. On parle des stablecoins, on en parle beaucoup depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est la question du rendement lié au stablecoin.
C'est ce qui se posait et qui bloquait le Clarity Act, d'ailleurs.
Absolument, tout à fait. Pour rappel, le Clarity Act, en fait, a fait une ouverture légère, mais quand même une ouverture sur le sujet. C'est-à-dire que le fait de détenir, à proprement parler, des stablecoins n'est pas de nature à générer du rendement. En revanche, un certain nombre de services liés à ce stablecoin peuvent en générer. En Europe, tout est bloqué. Les choses sont extrêmement claires sur le sujet. Et on voit que finalement, l'Europe s'interroge. L'Europe s'interroge pourquoi ? Parce que les EMT, c'est-à-dire effectivement ces stablecoins adossés à une monnaie en cours légale, bon, outre le fait que c'est à 99% du dollar, la réalité c'est qu'à part quelques acteurs, citons Circle ou C Général, on ne peut pas dire que ce soit non plus la plus grande réussite qui soit. Et à côté de ça, en termes de volume, j'entends, et puis à côté de ça, c'est vrai que les ART, qui est l'autre type de jeton qui est prévu adossé à un panier d'actifs, ben on voit que c'est en réalité, le développement est dérisoire, infinitésimal. Donc finalement, on a une réussite qui est assez marginale sur ce sujet. Et puis, la DeFi, évidemment. qu'on se doutait depuis plusieurs années maintenant qu'il y avait des angles morts dans ce MiCA. On pense au NFT notamment, hein, la grande narrative de 2021 qui n'existe plus trop maintenant. Mais bon, il y a quand même ce trou dans la raquette qui n'est pas évoqué d'ailleurs dans ce document, mais qui à mon avis fera un jour l'objet d'une réévaluation. Et puis il y a la finance décentralisée. Pour rappel très rapidement, MiCA 1, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que tout ce qui est 100% décentralisé, ce qui est réellement décentralisé, fully decentralized, comme disent les anglo-saxons, eh bien, n'est pas concerné par le règlement MiCA. Reste à savoir ce qui est réellement décentralisé. Après, ça, c'est du cas par cas. Là où la consultation est intéressante, c'est qu'elle voudrait éventuellement mettre à la charge des entités qui sont régulées une nouvelle obligation qui est celle de pouvoir contrôler en réalité les protocoles de finances décentralisées avec lesquels elles travaillent. Ce qui, à mon avis, poserait de vraies questions, ne serait-ce en termes de responsabilité, de capacité à aller justement auditer ces protocoles de DeFi, d'assurance, etc., etc. Donc, finalement, a priori, moi, ce que je vois, c'est qu'on va encore potentiellement, on risque en tout cas de rajouter des couches de réglementation à ce qui existe déjà beaucoup.
C'est vraiment pas dans nos habitudes, vous exagérez.
Non, c'est très étonnant.
C'est surprenant. Oui, c'est très étonnant. En termes de calendrier, il y a MiCA, l'agrément MiCA, bon, bah, c'est maintenant, hein, c'est 1er juillet pour les entreprises qui devaient le présenter. Cette évolution de MiCA, elle serait susceptible de sortir quand
Les conclusions sont prévues effectivement, la fin de cette consultation est prévue cet été. Et je pense qu'il est vraisemblable, à mon avis, vu la célérité de l'Europe à réguler, qu'on ait probablement des nouvelles d'ici la fin de l'année. Ça me surprendrait pas, peut-être début d'année prochaine, il y a une nouvelle présidence qui arrive, peut-être qu'ils prendront le relais, mais en tout cas, ça prendra pas plusieurs années.
En attendant, l'Afrique, hein, se finalement, regarde ce qui se passe en Europe, Élodie. Elle est en train de regarder justement cette réglementation MiCA et peut-être de la copier pour, créer un cadre des crypto-actifs, des actifs numériques.
C'est ça. Donc, il y a une conférence historique le 8 mai à Dakar, donc qui a réuni une grosse partie des banquiers centraux africains, mais pas que. Il y avait le FMI qui était présent, la Banque de France et également la Fed avec Lisa Cook, donc, qui est gouverneur de la Fed. Et ça avait une forme de cour magistrale. Donc, on avait d'un côté les banquiers centraux qui assistaient un cours du monde entier pour expliquer comment ils avaient réglementé chez eux, dont la réglementation MiCA qui a été présentée plusieurs fois et qui était présentée comme un cadre à copier et intéressant aussi pour l'Afrique. Ouais, en tout cas, la zone BCAO, hein, c'était vraiment la zone de l'Afrique de l'Ouest.
C'est intéressant. Vous allez nous dire où ça en est. Ce sur quoi vous vouliez revenir aussi, c'est un sujet hyper intéressant et qui montre que l'Afrique, partie par partie, se met aux cryptos. Il y a notamment l'exemple du Kenya,
tout à fait,
qui se met au Lightning et qui va finalement faire un peu prendre la place un peu du leader de développement de ces innovations numériques pour les paiements. Qu'est-ce qui s'est passé au Kenya concrètement, Élodie ?
Alors déjà, l'innovation au Kenya elle tranche beaucoup avec cette conférence de la BCAO qui était plus portée sur les stablecoins. Donc Bitcoin n'a pas du tout été évoqué et même les fintechs qui développent sur le terrain n'avait pas la parole finalement dans cette conférence, c'était plutôt les consultants, les banques.
Elle a été prise en otage par les banquiers centraux.
Exactement, les banquiers centraux qui parlaient entre eux de comment ils s'arrangeaient dans d'autres juridictions pour gérer ce problème des stablecoins et ils ont très peu évoqué Bitcoin. Mais au Kenya, pour bien comprendre ce qui s'est passé, on va déjà remonter en 2007 où a été créé M-Pesa, qui est un service de mobile money dont l'objectif c'était de permettre aux utilisateurs d'envoyer, de recevoir de l'argent et de le stocker aussi directement sur leur téléphone. Donc, on va dire un téléphone même le plus basique et sans compte bancaire. Donc, ce service, on va dire, il a transformé l'essai parce qu'aujourd'hui, au Kenya, près de 7 Kenyans adultes sur 10 l'utilisent. Donc, il est quasiment généralisé. Et en 2024, une jeune start-up, Tendo, a décidé de faire le pont entre Bitcoin et M-Pesa. Donc, l'objectif, c'était de permettre, par exemple, à un Bitcoiner touriste qui arrive au Kenya, qui veut dépenser ses sats, de ne pas être obligé d'aller trouver un bureau de change pour les échanger en shilling, ni même de trouver une boutique qui les accepte. Il télécharge l'application avec le numéro M-Pesa et le montant de la facture, ça lui génère une facture Lightning qui peut payer avec n'importe lequel de ses portefeuilles, Blink, etc. Et donc, ils ont poussé le bouchon encore plus loin. Ils se sont dit, ça suffisait pas de permettre ça avec conversion automatique à la fin. Donc, le commerçant, lui, il a beau ne pas connaître Bitcoin, il reçoit du shilling. Et bah, de l'autre côté, on a celui qui veut payer, bah, qui peut se débarrasser de quelques sats. Donc, ils sont allés un peu plus loin et ils ont permis de rendre adressables les numéros de téléphone directement. C'est-à-dire que maintenant, on n'a même plus besoin de passer par leur application. Un numéro de téléphone est devenu une adresse Lightning. Donc, on passe à un tout autre narratif, c'est de se dire bah, la diaspora kényane pourra, à moindre frais, en utilisant Bitcoin, non pas comme produit, mais comme rail, envoyer de l'argent rapidement, et ça représente 4 milliards hein, par an que la diaspora envoie sur le territoire. Donc c'est une innovation qui a fait beaucoup parler d'elle voilà dans la presse.
Et effectivement s'adresse aux communautés, aux personnes non bancarisées.
Tout à fait.
Du pays. C'est quand même une petite révolution, parce qu'effectivement, quand on le met en parallèle avec ce qu'on a dit en début d'émission, là, les banques ne sont plus du tout invitées dans les débats. Ça fait office réellement de révolution et d'ouverture sur les possibilités du secteur financier dans le pays, et ça peut créer un modèle pour les autres pays.
Tout à fait, d'autant plus que Tendo n'est pas la première start-up en Afrique à penser à connecter Bitcoin et le mobile money, parce qu'en Afrique, c'est le moyen de paiement qui est le plus utilisé.
Ouais.
Donc, il y a aussi Machankura qui permet de le faire même sans Internet. Donc, on a vraiment une impulsion sur ce sujet de se dire, bah, maintenant, nous, on connecte Bitcoin, un réseau décentralisé, à ce que les gens connaissent, qu'ils utilisent tous les jours, donc le mobile money, ce qui nous permet d'avoir un pipeline qui fonctionne sans avoir besoin d'une banque ou autre.
Jonathan, une petite réaction à ce qu'on entend.
Oui, bah alors déjà moi évidemment je suis passionné par les usages de Bitcoin hors Union européenne ou pays occidentaux, parce qu'effectivement moi comme je le dis souvent, Bitcoin dans les pays occidentaux c'est principalement une réserve de valeur et les gens l'utilisent comme outil d'épargne. C'est d'ailleurs ce qu'on fait chez StackInsat. Néanmoins, dans les pays occidentaux, la dimension paiement est quand même beaucoup moins présente que justement dans les pays africains ou dans les pays d'Amérique latine. Donc moi, je ne peux que me réjouir des initiatives qu'il y a dans ces pays-là, notamment pour faire la promotion du Lightning, qui est justement la possibilité, qu'offre la possibilité au Bitcoin de devenir quasiment instantané. Donc voilà, le paiement va se développer dans ces pays-là parce que tout simplement, le système bancaire est totalement défaillant, ce qui n'est pas forcément le cas dans les pays occidentaux, même si on a tout un tas de reproches à leur faire. Donc voilà, nous, c'est ce qu'on prône aussi depuis le début à Surfing Bitcoin. On a fait venir énormément d'Africains ou d'Américains du Sud, justement, pour faire la promotion du Bitcoin dans ces pays-là. Donc voilà, très très belle initiative et je suis sûr que Bitcoin aura encore beaucoup de belles années devant lui dans ces pays-là.
C'est là qu'on voit les différences de développement hein, finalement entre les pôles mondiaux. Arnaud, vous vouliez rajouter quelque chose?
Non, tout à fait. Et puis je pense que c'est deux salles, deux ambiances si vous voulez. C'est-à-dire que quand on parle d'Europe, ça peut paraître contre-intuitif pour un avocat de le dire, mais on parle quand même énormément de réglementation. Ce qui évidemment a son intérêt aussi parce que ça cadre, c'est la définition de la réglementation. Mais
ça cadre, mais ça ralentit.
Ça ralentit, ça détruit aussi.
Et ça détruit
énormément.
Beaucoup, hein.
Je pense que le secteur est assez évocateur sur le sujet. Donc, parler d'innovation, moi, c'est ce qui fait que ça m'a plu. C'est ce qui a fait que je suis entré dans cet écosystème il y a 10 ans maintenant. Et j'aimerais bien qu'on parle plus de ces initiatives qui sont juste phénoménales et que peut-être, parfois, on parle un peu moins de réglementation. Et pour rejoindre ce que dit Jonathan, si, par exemple, puisqu'on parle de la réserve de valeur en matière de Bitcoin, si on n'avait pas la flat tax à chaque fois qu'on achetait quelque chose avec son Bitcoin, bah, il est probable qu'il y ait beaucoup plus de gens qui l'utilise aussi comme un moyen de paiement et pas uniquement comme une réserve de valeur. Ça, c'est un petit rajout à faire aussi qui nous permettrait de donner un petit peu plus d'avantages, mais comme effectivement les voix de nos députés sont impénétrables, ce sont des sujets qui semblent compliqués à traiter.
Je crois qu'il y a au minimum un candidat à la présidentielle qui veut réduire drastiquement la flat tax. J'ai peur qu'il ne passe pas.
Bizarrement.
Mais effectivement, c'est dans son programme. Il voulait la ramener au minimum à 15%, voire un peu en dessous, me semble-t-il. Je ne vais pas donner son nom parce que sinon, il va falloir que je donne le nom de tous les candidats. Ça va faire vraiment trop long. Effectivement, juste un petit mot pour la réglementation de ces développements des actifs numériques en Afrique. Elle attend cette réglementation, elle attend ce cadre à son tour. Pour le coup, elle est dans le sens inverse.
Bah, les fintech, elles sont dans l'incertitude,
ouais.
Parce qu'aujourd'hui, on est en zone grise dans la plupart des pays. côté entreprise aussi, et c'est le point qui fait peur à beaucoup de chefs d'entreprise. Pourtant, ils ont des besoins et ils savent que ça peut les aider à, comme on disait au début, réduire les frais, aller plus vite. Et puis même, ils ont aussi un manque de devises. Donc, des fois, ils sont coincés, les commandes ne partent pas parce que la banque, tout simplement, ne peut pas honorer. Donc, mais ils ont quand même cette peur. Ils se disent, on est en zone grise. Pour l'instant, il n'y a pas de cadre clair. Donc, est-ce que si j'y vais, je ne vais pas me faire rattraper par la patrouille après. Donc, le cadre réglementaire, il est attendu. Après, aujourd'hui, la peur en fait, des fintechs, justement, celles qui ont les réactions qu'on a pu voir à cette conférence qui a eu lieu, c'est de se dire, mais on ne nous donne pas vraiment la parole. Est-ce qu'ils vont nous faire quelque chose qui est un copier-coller de l'Europe qui ne correspond pas du tout à ce qu'on fait, nous, sur le terrain?
C'est le risque, effectivement. On verra comment ça se développe. Ça va très, très vite. Et en tout cas, on voit bien que ça permet aux entreprises, à l'économie, de faire un bond et un pas de géant et de pallier, effectivement, ce système bancaire défaillant sur ce continent. Merci à tous les trois d'être venus dans cette émission. C'était passionnant de vous écouter. Jonathan Herskovici, fondateur de StackInsat, Elodie Lué, fondatrice de Effet 21 Conseil et du podcast Effet 21. Et Arnaud Toiti, fondateur et associé chez Hashtag Avocat. Émission à retrouver en podcast et en replay sur notre appli et notre site. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Bonne journée.
BFM Business, BFM Crypto, le club.